libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parcours libriste avec Magali Garnereau, alias Bouquinette, présidente de l'April, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Mario Di Morandi sur le thème « De l'intérêt de contribuer à des projets libres ». Et aussi la deuxième chronique « L'aptitude de Luc » sur ChatGPT. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 2 mai 2023, nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, mon collègue Étienne Gaudu. Bonjour Étienne.
Salut Isa, bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec une nouvelle chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Une chronique préenregistrée, proposée par Marie-Odile Morandi, administratrice de l'April, élue par Laure-Élise Daniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, de l'intérêt de contribuer à des projets libres. On se retrouve juste après, dans environ 7 minutes, en direct sur Cause commune, la voie des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la présentation de la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », on entend et on peut lire qu'il s'agit de partager des coups de cœur pour mettre en valeur une ou deux transcriptions. La transcription dont je souhaite parler aujourd'hui a été un véritable coup de cœur que je souhaite donc partager. Il s'agit de la présentation proposée par Mathieu Fermant au salon Open Source Experience qui s'est tenue à Paris en novembre 2022, intitulée « Les contributions au logiciel libre sont-elles uniquement destinées à des fins humanistes ?» d'une durée de 47 minutes. Vous trouverez la référence sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavous.org. Une remarque cependant, les libristes que nous sommes regrettent que dans le discours, les expressions « open source » et « logiciel libre » soient employées de façon indifférenciée. Dans cette chronique, le terme « logiciel libre » sera privilégié. Mathieu a une formation de développeur PHP et travaille actuellement pour PrestaShop, une entreprise qui édite un logiciel libre permettant de construire une boutique en ligne. Mathieu explique que toute sa carrière s'est construite sur des projets libres. PHP, langage de programmation qui permet de produire des pages web, Apache, logiciel de serveur web, MySQL, système de gestion de base de données, et GNU Linux. Il se sent donc redevable envers le monde du libre. En contribuant, il a ainsi l'impression de redonner un peu de ce qu'il a reçu. C'est cette même raison humaniste qui pousse de nombreux développeurs et développeuses à contribuer, mais ce n'est pas la seule. Quel moyen plus efficace pour apprendre que de pratiquer, c'est-à-dire écrire du code ? Dans les projets libres, les contributions qui parviennent sont revues gratuitement par les mainteneurs, les experts du projet, qui en contrôlent la qualité, échangent avec les personnes qui contribuent et leur donnent des indications en retour. Une excellente manière de s'améliorer est de se créer une réputation. Les développeurs et développeuses en recherche d'emploi mentionnent ces contributions sur leur CV, contributions qui sont attentivement regardées par les recruteurs. Cependant, souvent, par manque de temps disponible, ces contributions, faites de façon bénévole et à titre individuel, risquent de ne pas être régulières dans le temps et de ne pas aboutir de façon sérieuse. Il est donc important que ce soit les entreprises qui contribuent, c'est-à-dire qui missionnent certains de leurs salariés sur leur temps de travail rémunéré. Il faut donc convaincre les entreprises de contribuer, participation salariée et participation bénévole restant certes complémentaires. L'objectif d'une entreprise est de gagner de l'argent, de faire du profit. Il faut donc s'adresser à elle en termes économiques. Mathieu Fermant va démontrer pourquoi les contributions au libre sont très intéressantes économiquement pour les entreprises et représentent des investissements durables. Un développeur qui construit une solution logicielle, une application, ne crée pas tout ce dont il a besoin ex nihilo. Il utilise des librairies libres, certes gratuites, mais ont-elles un support ? Bénéficient-elles d'une maintenance ? En cas de bug dans le produit fini, si, en analysant ce bug, on découvre qu'il provient de l'une de ces librairies, il va falloir exécuter des corrections, peut-être de façon précipitée, puis maintenir cette librairie, voire faire des montées de version, et cela aura un coût pour l'entreprise, d'autant plus si ce code est critique et que les problèmes engendrés lui font perdre de l'argent. À partir du moment où ce code est nécessaire à l'entreprise pour son activité, Mathieu Fermant lui conseille de le traiter comme si c'était son propre code, ce qu'il est devenu puisqu'il tourne dans son application. L'entreprise doit en prendre soin, donc contribuer, afin d'assurer sa survie, mais aussi afin qu'il progresse. Avant d'être accepté, une contribution passe devant un processus qualité qui n'existe peut-être pas en interne dans cette entreprise. Lorsque le changement de code est validé, les mainteneurs en acceptent aussi le fardeau de la maintenance qui vient avec. D'autres développeurs vont donc maintenir ce code en échange de l'avoir donné au projet. Ainsi, en contribuant, l'entreprise bénéficie des processus de qualité et de maintenance, et ceci gratuitement. Pour un entrepreneur, c'est que du bonheur, affirme Mathieu Fermant. Avec ce mécanisme, vu que les contributions de toutes les entreprises sont mises en commun, chaque entreprise peut, en plus, récupérer l'intégralité du travail des autres. Ce qu'elle a investi est ainsi démultiplié, donc économiquement, là encore, c'est très intéressant pour son budget. Les entreprises qui contribuent ne le font pas par bonté d'âme. En contribuant, en faisant du code, leurs développeurs et développeuses interagissent avec d'autres personnes, deviennent peut-être des mainteneurs, font de la revue de code, puis participent à la gouvernance du projet. Du coup, une telle entreprise acquiert une légitimité et une expertise qu'elle peut monétiser. En affirmant « je connais très bien le domaine, je suis un expert », elle pourra vendre son propre produit plus cher que ses concurrents. Quand les développeuses et développeurs s'investissent, contribuent régulièrement à un projet libre qui est nécessaire à leur entreprise, au fur et à mesure, elles et ils commencent à être connus, à faire partie de la communauté. Il est alors courant qu'on leur demande de faire partie du groupe de mainteneurs de ce projet libre. Si certains de ses salariés endossent ce statut de mainteneur, l'entreprise acquiert une sorte de pouvoir d'influence, est en capacité d'orienter la direction que prend ce projet. Cela devient très intéressant, d'autant plus si ce projet est un projet critique pour elle. Encore une raison très importante pour les entreprises de contribuer au libre. Certes, comme tout groupe d'humains qui travaillent ensemble, comme dans toute gouvernance de projet, des désaccords existent. Mathieu affirme que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que les avantages et les intérêts dépassent largement ces petits tracas. Développeuses et développeurs, n'hésitez pas à participer à des projets libres à titre individuel. Cependant, comme le suggère dans cette conférence de Mathieu Fermant, dont nous vous conseillons de lire, voire relire la transcription, convaincre les entreprises de donner à leurs salariés des missions pour contribuer à des projets libres sur leur temps de travail permettra d'obtenir des contributions plus régulières, plus poussées et pérennes dans le temps. Objectif noble que de préserver et améliorer l'ensemble de l'écosystème du patrimoine commun, logiciel libre.
C'était une nouvelle chronique de Mario Dil, lue par Élodie Daniel. Donc je vous invite, si ça vous a inspiré, à aller vraiment aussi regarder la source de cette transcription. Et maintenant, nous allons faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous allons échanger avec Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April, dans le cadre d'une nouvelle édition du format Parcours Libriste. Nous allons maintenant écouter Space Barbie par Radio Déserte et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Space Barbie par Radio Déserte, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences de type Creative Commons Attribution, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions ou encore licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. En cette saison 6 de Libre à vous, nous avons souhaité vous proposer un nouveau format pour certains sujets principaux, un nouveau format qu'on a intitulé Parcours libriste. L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel et bien sûr de son lien avec le logiciel libre. La première édition de ce format a été diffusée le 17 janvier 2023. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Conil, ingénieure et développement logiciel au CNRS. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission, je vous recommande d'écouter le podcast disponible sur libreavoue.org/165. Pour cette deuxième édition du format Parcours libriste, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Magali Garnero, présidente de l'April, peut-être mieux connue sous son pseudo qui est Bouquinette. Bonjour.
Salut Isa.
N'hésitez pas à participer à notre conversation ou 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat. Si vous avez des questions pour Bouquinette ou Bouki, c'est le moment, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le salon. Bouquinette. Moi je t'appelle Magali ou Bouquinette selon les moments. Tout d'abord, pourquoi ce pseudo Bouquinette?
Alors, ça va répondre à une question d'après. Book, parce que j'aime les livres. Net, parce que je fais moins d'un mètre 56. Du coup, associé ensemble, ça fait Bouquinette.
Très bien. Est-ce que, par hasard, ça n'aurait pas quelque chose en lien aussi avec ton métier? Parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peut-être que tout le monde ne le sait pas encore.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1999, je suis libraire. D'abord en apprentissage et puis ensuite j'ai fait la grande folie de monter ma propre librairie qui est dans le 11e arrondissement.
Et on a mis la référence sur la page, donc ouais. on peut dire l'adresse. Hein.
Ah ben on peut dire l'adresse, surtout qu'il y a plein de manifestants qui y passent devant régulièrement comme hier. Je suis au boulevard Voltaire, métro Charonne.
Et ça s'appelle À Livre Ouvert. Voilà. Est-ce que tu as su tout de suite, quand tu étais déjà toute petite, que tu voulais être libraire?
Alors pas du tout. Au départ, je voulais être médecin.
Ah.
Et puis j'ai eu très peur de tuer mes malades.
Bien.
Du coup, je me suis posé des questions. Et puis comme j'aime lire, comme j'aime discuter, comme j'adore monopoliser la parole pour parler de ce que j'aime, libraire, ça le faisait bien. Donc je me suis lancée là-dedans. Et puis faut bien reconnaître, c'est le plus beau métier du monde.
Voilà. Ça fait super plaisir d'entendre ça. Quoi qu'on on peut tuer aussi avec un livre s'il est assez gros.
Ah le livre, ça peut être lourd. Et puis il y a aussi le choc des mots.
Exactement. Tu disais que tu as commencé en tant qu'apprenti, donc après tu es devenu salarié, si j'ai bien compris, d'une librairie. Mais pourquoi décider de franchir ce pas et de devenir entrepreneuse? Il faut du courage, il faut de l'énergie. Tu t'es sentée de faire ça, pourquoi?
Alors j'ai aussi de la responsabilité et du masochisme, parce que être patronne, c'est génial, c'est plein de liberté, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Par contre, c'est des horaires d'ouverture à respecter, 6 jours sur 7 de travail quand on n'est pas en comptabilité le dimanche. Mais il y a aucun compte à rendre à personne et ça, c'est une grande liberté que seul le partenariat offre.
Et si j'avais noté cette question pour toi, si tu repenses à la Bouquinette de 20 ans, 25 ans, je sais plus quand tu as ouvert ta librairie, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
Alors, c'est en contradiction avec tout ce que je viens de dire, mais si je me rencontrais moi-même à cet âge-là, je dirais reste salarié, travaille 35 heures, voire à mi-temps, garde du temps pour lire, faire du sport, aller manifester et militer à volonté.
Et si tu devais, si tu devais repenser à la bouquinette que tu étais quand tu étais jeune, tu te voyais seulement libraire ou tu avais d'autres objets, rêves, idées qui te passaient par la tête?
Alors ça, c'est génial parce que mon rêve à 20 ans, c'était de monter ma librairie. Check. Ça, c'est fait.
Mais bravo.
Voilà. Mon ambition, c'est qu'elle fonctionne suffisamment pour avoir des employés. Alors ça, c'est 2000 chèques, elle fonctionne. Mais j'ai pas encore des employés. Mais je suis quand même hyper contente d'avoir réalisé mes rêves, mes ambitions. Même si, avec 20 ans de décalage, je me dis que ça me manque, les 35 heures.
20 ans de décalage. Et tu parlais de... Tu disais, si j'étais salariée, j'aurais plus de temps pour faire plein de choses, pour faire du sport, pour lire et aussi pour militer. Je veux savoir à quel âge tu as commencé à militer. Qu'est-ce que c'est pour toi, militer dans une association, pour une cause? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'engagement?
Alors, à quel âge j'ai commencé à militer? Je crois que j'ai commencé à militer très tôt. Parce que dès qu'il y avait une cause injuste, j'avais tendance à aller parler, discuter, combattre les idées, les préjugés, et ainsi de suite. Je pense que c'est l'éducation de ma mère, qui est une 68arde attardée, qui m'a mis ce combat à la bouche. Après, militer, pour moi, c'est vraiment se battre sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, essayer de convaincre les gens, essayer de proposer son aide, parce que faut pas s'imposer non plus, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide, les éclairer, leur apporter la connaissance, voilà, plein d'informations qui pourront leur être utiles. Et puis aussi, faut pas se leurrer, combattre des grosses entreprises qui se font des sous sur le dos des gens.
Et quand tu dis essayer, voilà, de donner des informations, de sensibiliser, etc., tu le faisais aussi au niveau individuel ou aussi dans le cadre d'associations avant de connaître l'April?
Alors, je soutenais déjà un peu Attaque de loin, Médecins sans frontières.
Je ne sais pas si tout le monde connaît Médecins sans frontières. Oui, c'est connu. Hein. C'est une ONG humanitaire qui fait de l'urgence médicale sur le terrain. Peut-être dire quelque chose sur Attaque. Je ne sais pas si c'est aussi connu.
Attaque, ça existe depuis pas mal de temps et ça débat de sujets de société.
D'accord, voilà. Donc c'est assez
c'est
large.
C'est très vaste. En ce moment, il y a plein d'opérations, forcément sur les retraites, mais aussi sur l'AG de Total. Voilà, il y a plein de groupes de discussion et prépare l'université d'été qui aura lieu à Bobigny fin août.
Très bien de le rappeler. Et donc ça explique pourquoi, comme tu disais, chaque cause qui me semblait juste, j'avais envie d'y participer, d'y contribuer. Et donc ça correspondait bien à ce que tu voulais faire.
Ouais. Autre exemple assez anecdotique, quand j'étais jeune, j'étais déléguée de classe. Vous voyez, déjà, j'avais besoin de responsabilité.
Ça ne me tombe pas du tout de toi.
Dès qu'un élève se faisait gronder alors qu'il était innocent, j'avais tendance à aller le défendre bec et ongle. Donc effectivement, la lutte, ça me connaît.
Et vu qu'on parle de parcours libriste, donc on parle de vie de personnes qui sont en lien, qui ont un lien fort avec le logiciel libre, la culture libre, le plus en général. Qui parle de logiciel libre parle aussi d'informatique. Quel était ton rapport à l'informatique avant de découvrir le logiciel libre?
Alors moi, j'étais nulle en informatique. Hein. Quand j'ai ouvert la librairie, j'avais Windows avec une suite Office et point barre. Quoi. Alors, j'allais sur Internet très très souvent pour aller sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, utilisation de base. J'avoue que adhérer à l'April m'a fait changer totalement ma vision de l'informatique.
Et pour cause, je pense. Mais comment ça se fait? Parce que une personne qui fait une utilisation comme tu étais assez basique, qui se pose pas forcément des questions. J'imagine que tu avais Windows parce que c'était déjà préinstallé sur ton ordinateur et peut-être
Exactement.
Que tu connaissais même pas les alternatives, les systèmes d'exploitation libres. Donc peut-être que tu te posais pas trop de questions, peut-être que oui, mais que tu avais pas forcément de réponse. Mais qu'est-ce qui a fait que d'un jour ou l'autre, tu découvres logiciel libre et donc l'April?
Alors, je connaissais Apple, ce qui est pas beaucoup mieux maintenant, puisque c'est ce que mes parents utilisaient. Mais quand on a ouvert la librairie avec ma pote Laetitia, on a eu besoin de choisir un logiciel métier, donc un logiciel bien propriétaire qui nous est imposé par les fonctions du métier. Et on avait deux ordinateurs. Donc il y avait l'ordinateur avec Windows, mon logiciel métier qui s'appelle LibriSoft, qui est un super logiciel métier, et la suite Office. Et puis il y avait le deuxième ordinateur, toujours avec le logiciel métier, parce qu'il fallait l'avoir des deux côtés, et Internet, point barre. Parce que déjà à cette époque-là, donc c'était en 2005, la suite Office, ça avait un coût, et on avait préféré s'en passer. Moi, j'ai découvert les logiciels libres en 2006, quand j'ai rencontré Echarp.
C'est qui Echarp? Parce que tu en parles comme si c'était... Ouais, il est super connu à l'April.
À l'April, il est connu, c'est vrai, c'est Emmanuel Charpentier, c'est lui qui s'occupe de la revue de presse et de l'agenda du libre à l'April. Voilà, et je traînais sur les réseaux sociaux mythiques, pour pas le citer. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'étais célibataire. Et je rencontre Echarp et on commence à se fréquenter. Puis un jour, je râle parce que la suite Office que sur un ordinateur. Il me fait « Mais attends, je vais t'installer un truc. » Alors moi, quand on touche mon ordinateur, j'ai toujours assez sceptique et pas très très confiance. Et là, il me met OpenOffice. Alors OpenOffice, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version number one de LibreOffice qu'on utilise maintenant. Et donc, je commence à jouer avec OpenOffice, à me rendre compte que toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, que ce soit sur le traitement de texte ou sur le tableur, elles y sont. Il y a même des petites choses en plus qui me plaisent bien, comme des surlignages ou comme la correction orthographique qui me correspondent plus à moi que celles qu'il y avait sur les autres. Et je commence à bien aimer. J'en parle à Manu, puisque Echarp, je l'appelle Manu. Et il me dit, il y a plein d'autres choses qui existent. Donc, je vais commencer à chercher à remplacer tous les outils que j'utilise. Donc, Internet Explorer, ciao. Vive Firefox. Et pareil, il a plein de fonctionnalités que j'avais peut-être pas besoin à l'époque, mais que je découvre en suivant plein de tutos sur Internet. Ça apparaît. D'ailleurs, les tutos sur Internet, c'est formidable, quoi. Pour s'auto-former, c'est extraordinaire. On se forme à tout et n'importe quoi. Et puis quand on commence à tester, je continue avec Inkscape pour faire mes affiches d'événements. Et pareil, là il y a un tuto dans Inkscape qui est assez basique. Et puis après il y a plein d'autres choses à aller voir sur Internet. Et je suis totalement convaincue. C'est bien simple, maintenant j'ai toujours deux ordinateurs, mais tous les deux sous Debian, avec un Windows virtuel parce que je peux pas me débarrasser de mon logiciel métier. Et tout le reste, c'est du 100% libre.
Merci. Ça, c'était très, très, comment dire, très exhaustif sur ton évolution dans le rapport avec l'informatique. Echarp, Manu, t'as parlé aussi, j'imagine, de la philosophie qui était de logiciel libre. Parce que là, tu as parlé surtout de découverte. Ah, c'est trop génial. Je peux remplacer. Il y a des logiciels qui marchent bien, qui me permettent de n'être pas dépendant de licences, etc. Mais les principes du logiciel libre, la philosophie, les fameuses quatre libertés de la définition, tu les as communiquées tout de suite. Echarp, il a entendu un peu.
Pas tout de suite, mais un peu après. En gros, il m'a mis en place mon site web. Le site web de la librairie, j'en avais un peu pourri. Il m'en a mis un autre qui était génial et que je pouvais modifier à volonté. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis formée au HTML et au Markdown et je pouvais modifier mon site. Et il me dit, tu vois, c'est cool, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avec le site précédent. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Et puis, j'aimerais bien que rajouter telle fonctionnalité. Et là, il me rajoute la fonctionnalité.
Et ainsi de suite, il te la rajoute parce qu'il la code lui-même.
Il la code lui-même, oui. Parce que moi, ma fille me rajoute la fonctionnalité. Et petit à petit, je deviens non plus consommatrice de mon logiciel, mais actrice de mon logiciel. Je peux le modifier. Et donc, il m'explique tout simplement que si je peux le faire, c'est parce que le code est ouvert. Et il commence à me parler de logiciel libre, des cas de liberté, de Stallman, de l'imprimante, voilà. De plein de choses qui étaient pour moi juste des concepts, mais qui devenaient de plus en plus réels au fur et à mesure que je modifiais mon site. Et j'ai une copine qui me parle de ce site internet qui a l'air pas mal et qui me dit j'aimerais bien faire pareil. Et j'ai dit tu peux, le code source est ouvert. Et là, je commence à expliquer à ma copine libraire ce que c'est que du logiciel libre. Et je me dis, ça y est, je suis mordue.
Et tu as réussi à convaincre tout de suite aussi ta copine, parce que c'est aussi une affaire de sensibilisation, le logiciel libre. Plus on les utilise, plus on peut espérer qu'ils s'améliorent et qu'on arrive à convaincre, à sensibiliser encore plus de monde.
Alors, je ne l'ai pas convaincue. Elle disait mon site web, l'architecture de mon site web, je l'ai préféré la faire passer sous WordPress à l'époque. Puisque comme elle était pas sur Paris, qu'elle avait pas son geek à domicile comme moi, c'était plus simple de faire d'utiliser un logiciel beaucoup plus répandu où la communauté est quand même assez étendue.
De là à devenir membre de l'April, bénévole, très active à l'April, jusqu'à devenir administratrice, comment ça se fait? C'était une évidence? Ça arrivait tout de suite? Ça arrivait graduellement? On t'a sollicité? Ou c'est toi qui s'est dit, mais il faut que je le fasse?
Alors, au départ, j'étais juste la petite utilisatrice libraire qui accompagnait son chéri dans les soirées informatiques. Et puis, j'ai commencé à discuter avec d'autres informaticiens. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Benoît Cibot qui était président de l'April et Fred était déjà délégué général de l'association. Et j'ai vraiment bien sympathisé avec eux. J'étais tellement fière d'avoir cette information que pour moi, elle devait être partagée avec le monde entier, quoi. Si les gens étaient sous Apple ou sous Windows, c'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose qui existait. Donc, je m'étais dit, je vais me missionner et je vais aller prêcher la bonne parole, si je puis dire, même si franchement au début j'étais pas hyper informée, mais il fallait que tout le monde sache. Donc mon investissement à l'April, c'était pour avoir des informations et pouvoir aller distribuer. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'April, c'était la plus grosse association du logiciel libre. D'ailleurs, à mesure, c'est toujours la plus grosse association du logiciel libre puisqu'elle fait la promotion et la défense auprès des institutions. Donc voilà, l'April, c'était mon association de cœur.
Et en nombre de membres aussi, parce qu'on a près de 3000 membres, on en profite pour rappeler cette information, 2500 à peu près personnes physiques et puis le reste personnes morales, collectivités, entreprises, etc. Et du coup, voilà, tu comprends peut-être pas encore tout, tu as pas encore toutes les informations, tu en cherches l'information pour pouvoir à ton tour les relayer auprès du plus grand nombre. Et du coup, tu commences par quelles actions?
Alors, toujours Benoît Cibot, président, me dit, tu sais, on a un groupe transcription avec plein de choses à lire, toi qui aimes lire. Et tu trouveras forcément ton bonheur là-dedans. Alors, non seulement je lis des transcriptions qui ont déjà été transcrites, mais je commence à relancer le groupe transcription, à organiser des transcript parties, à remettre les tomates cerises au goût du jour parce que les chips, c'est pas terrible pour les dents et pour le reste du corps. Et donc, avec les transcriptions, je choisis les conférences qui m'intéressent et je me forme de cette manière-là. Alors, c'est double effet qui se coule, c'est-à-dire que je me forme et en même temps, je rends ces vidéos beaucoup plus accessibles sur Internet parce que un moteur de recherche ne sait pas chercher du texte dans une vidéo. Par contre, du texte dans une transcription, c'est beaucoup plus aisé. Donc, en même temps que le groupe transcription se crée, on donne un petit coup de main au groupe de travail accessibilité de l'April en rendant ces vidéos plus... alors, je dis vidéo, mais il y avait aussi des fichiers audio, donc plus accessibles. Et ça, c'était vraiment à tous mes débuts, quoi.
Et comment ça se... Tu disais, vous retrouviez à plusieurs, c'était... En fait, vous faisiez ça en présentiel? Parce qu'aujourd'hui, on fait presque tout en visio, en distanciel.
Alors, à l'époque, la visioconférence, c'était pas très convaincant. Donc oui, on se réunissait en présentiel, alors dans les locaux de l'April, dans ma réserve de ma librairie, on a squatté des bars, mais c'était un peu trop bruyant. Enfin, dès qu'on pouvait trouver un lieu, on était beaucoup à la FPH aussi, la Fondation pour les Progrès de l'Homme. Dans le 11e, oui. À un moment donné, on faisait des transcripts parties tous les mois, donc c'était vraiment la belle époque. Et effectivement, on était assez nombreux, on était toujours plusieurs filles. Moi, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le logiciel libre, et je le constate souvent, mais dans les transcripts parties, il y avait une sorte de petite émulsion. On était toujours trois ou quatre. Alors, jamais en majorité, mais quand même, on était là et on se faisait entendre. Enfin, surtout en tapant sur le clavier, mais on se faisait entendre.
Et tu étais, tu étais aussi celle qui mobilisait les personnes, parce que ça, c'est pour qui connaît Magali Bouquinette, tu as aussi cette capacité quand même de donner envie de participer, de faire des choses. Donc, tu étais aussi dans cette position de dire, oh, qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est le jour de transcription, je te le rappelle.
Oui, alors effectivement, je relançais les gens, quitte à leur envoyer des SMS directement pour les faire venir. Mais ça faisait une belle émission. Des fois, on avait pas besoin de contacter qui que ce soit et on se retrouvait à 12, donc à 12 dans un appartement, ça fait beaucoup.
Je pense que c'est important de souligner ce que tu dis parce que une autre chose qui te tient très à cœur, en plus de logiciels libres, toute cause qui te semble juste. C'est aussi la convivialité, le faire d'être avec les autres, de faire ensemble, de contribuer ensemble à un projet, à une cause. Et donc, je trouve que c'était une superbe occasion de démarrer, en fait, ton activité à l'April. Aujourd'hui, le groupe de transcription, je crois pas qu'il y a vraiment des événements en présentiel, ou alors c'est rare, mais vous pouvez toujours participer. C'est quand même un super groupe qui fait un énorme travail. Il y a une douzaine de transcriptions qui sont publiées chaque mois, en moyenne, sur le site Libre à lire. Et donc voilà, je profite pour dire que c'est une belle façon de commencer à connaître le logiciel libre, tous nos sujets.
Et puis c'est un bon moyen de s'investir dans l'April. Au début, on ne connaît pas grand-chose. Bah, faire des transcriptions, c'est se former, c'est faire du travail ensemble. Il y a la transcription, il y a la relecture, il y a la relecture, il y a la publication. C'est vraiment un travail. Et puis j'ai l'impression que là, ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont beaucoup plus efficaces dans le groupe transcription.
Donc voilà pour le groupe transcription, mais tu t'es pas arrêté là, ça pouvait pas te satisfaire. Dès que tu en as su plus, tu étais prêt à aller plus loin. Qu'est-ce que tu as fait après?
Alors, pendant et après, j'ai monopolisé les stands de l'April. Forcément, comme j'ai cette facilité à discuter avec des gens que je connais pas, ça c'est grâce à mon métier et puis au théâtre d'impro que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, bah, tenir un stand, une fois que je connais les dossiers de l'April, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, j'ai squatté tous les stands de l'April qui passaient sous les mains. Alors, j'avais commencé petit, hein, dans les stands des Ubuntu Party. Puis après, j'ai fait beaucoup plus grand, je suis allée dans d'autres gros événements.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus à part parler, je pense que ça te plaît aussi de parler avec les potes, les camarades des autres associations.
Ah oui. Alors là, si tu me tends la main, c'est vrai qu'à force de connaître des gens, puisque j'étais sur tous les stands, j'ai commencé à organiser les villages du libre, des rencontres mondiales du logiciel libre.
Et c'est vrai. Faut rappeler ce que sont, parce que malheureusement, ça n'existe plus. Mais dans l'histoire du logiciel libre en France, je pense que c'est important de dire ce que sont les rencontres mondiales du logiciel libre.
Tous les ans. Une association locale organisait ces fameuses rencontres et invitait plein de gens en France, en Belgique, mais aussi à l'international, puisqu'on a des gens qui sont venus d'Afrique, des gens qui sont venus d'Amérique latine. Et pendant une semaine, on se réunissait avec des conférences, des ateliers et bien sûr un fameux village. C'est là que j'ai fait pas mal de rencontres de potes qui me suivent toujours d'ailleurs depuis des années.
Et organiser un événement pareil, c'est pas rien, je veux dire... C'est un gros investissement. C'est pour ça aussi que malheureusement ça on n'a pas réussi à garder cet événement parce que ça demande beaucoup de ressources. Il y avait des personnes, des bénévoles qui prenaient des congés rien que pour organiser les rencontres mondiales. Ça se faisait en été.
Oui.
Et donc il a fait de plus en plus chaud au fur et à mesure que les années sont passées.
Ah, c'était pas désagréable là. Je me rappelle d'après-midi, on allait se mettre sur la pelouse devant la fac et on joue au tarot. Donc,
par exemple, on trouve toujours moyen de se rafraîchir, de se détendre, bien sûr. Et toi, comme village de logiciels libres, qu'est-ce que tu as organisé en particulier?
Alors j'espère que je ne vais pas en oublier, hein, mais j'ai fait Saint-Étienne, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Strasbourg...
Oh, je suis sûre que j'en ai oublié. Et puis, tu as fait des villages aussi sur d'autres événements.
Voilà, j'ai aussi annexé l'open source, solution GNU Linux, open source summit, open source experience. Enfin, tous les 3-4 ans, ça change de nom.
C'est un salon professionnel, en fait, qui a lieu sur Paris, mais qui, effectivement, au cours des années, a changé de nom. Mais le concept est toujours le même, réunir un maximum d'entreprises françaises qui opèrent dans le logiciel libre et si possible, avoir un bon coin, un village associatif.
Alors, il se réduit un peu comme peau de chagrin, puisqu'il y a de moins en moins de place. Mais d'ailleurs, je peux déjà annoncer qu'il y aura un village au prochain Open Source Experience et que l'ouverture des stands sera ouverte d'ici un mois.
Donc il faudra se dépêcher à s'inscrire parce que les places coûtent cher. Donc nous on a l'avantage d'avoir Bouquinette présidente de l'April, donc à mon avis l'April n'aura pas du mal à trouver sa place dans le village. Tu disais que tu as connu le logiciel libre en 2006, tu es rentrée à l'April à peu près...
En 2007, enfin, j'ai voulu adhérer en 2007 à l'April et je me suis rendu compte que j'étais déjà adhérente. Voilà, je ne sais pas, c'est un mystère, seule écharpe, c'est pourquoi. Voilà. Et puis je suis restée voilà à peu près 5 ans en tant que simple bénévole transcriptrice tenant de stand, et en 2012 j'ai postulé pour rentrer au CA.
Pourquoi tu voulais rentrer au CA?
La curiosité. J'aime bien savoir comment ça se passe en coulisses, j'aime bien savoir qui décide, comment les décisions sont prises, donc la curiosité. Et puis
et qu'est-ce qui t'a fait rester? Parce que une fois que tu sais comment ça se passe,
La conscience, le masochisme, les réveils à 6 heures du matin, je ne sais pas pourquoi je reste. Non, je reste parce qu'il y a quand même une super équipe, que ce soit du côté salarial ou du côté des administrateurs. J'ai vu pas mal de copains rentrer au CA. Bon, j'en ai vu aussi sortir, mais ça, c'est la vie. Et puis, ben, ça se renouvelle. Il y a quand même quelque chose de très fort, c'est qu'on a les mêmes valeurs. On veut tous défendre le logiciel libre. Et on a à peu près les mêmes combats, même si on est tous un peu investis dans d'autres associations. Donc il y a vraiment plein de choses qui nous unissent et qui sont nos priorités.
Tu connais donc l'April depuis 2006-2007, ça fait un paquet d'années. J'imagine que l'association, alors moi, pour juste pour un titre informatif, je suis devenue salariée en 2014. Donc déjà, j'ai raté beaucoup d'années par rapport à toi. Et donc, un paquet d'années comme ça, est-ce que l'association a évolué pendant tout ce temps? Est-ce que tu as vu des choses changer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et tu le regrettes un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et tu en es très contente?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, on fait plus de pique-nique, mais ça, je pense que c'est parce qu'on est trop vieux. On supporte pas de rester assis pendant 3 heures. On fait
peut-être
beaucoup...
qu'ils reviendront avec le beau temps.
Ah, ça me tente bien de recommencer. Hein. On va proposer ça aux bénévoles, qu'ils soient à Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Il y a un Chapril qui est apparu et avec plein de services. Moi-même, je suis investie dans...
On va rappeler ce que c'est Chapril pour les personnes qui ne connaîtraient pas.
Alors, le Chapril, c'est... On va commencer par les chatons. Framasoft a décidé de mettre en place...
Framasoft, qui est une association nationale d'éducation populaire au numérique. Voilà, justement.
A décidé de mettre en place des services alternatifs aux GAFAM. Et donc, vous pouviez aller sur les serveurs de Framasoft et utiliser des Framapad, Framadat pour faire des sondages, plein de services alternatifs. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de devenir beaucoup trop gros, que ils ont décidé de mettre en place les chatons. Alors chatons, c'est un acronyme, c'est collectif d'hébergeur alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Je le mettrai celui-là, je suis contente. Et ils ont ouvert à d'autres associations, et je crois que maintenant on est quasiment une centaine de chatons.
Je pense qu'on a dépassé la barre des 100 chatons.
Ah, c'est merveilleux, en fait il y a une portée tous les 6 mois. Et là, en ce moment d'ailleurs, il y a une portée qui va peut-être voir 3 nouveaux chatons naître, en tout cas je l'espère. Et donc à l'April, on a fait notre Chapril avec à peu près 13 services. Je milite pour un 14e et je me suis investie dans la modération du mastodon. Alors nous, on l'appelle le Pouette entre nous, pouette.chapril.org. Et je fais de la modération avec Quentin et Christian tous les lundis midi.
C'est quoi le mastodon pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Désolée, je me répète. Mais...
Alors, c'est une sorte de messagerie instantanée libre pour concurrencer un réseau social qui commence par T, qui finit par R et qui sent très mauvais.
Très bien. Écoute, merci pour cette première partie. Je pense que c'est le bon moment pour faire une pause musicale. Et je t'avais demandé de choisir un morceau.
Ouais.
Et tu l'as choisi. Et c'est tu souviens du titre? Tu veux l'annoncer toi-même peut-être?
Alors, je l'ai choisi parce que l'artiste, c'est un coup de cœur associatif. Hein. C'est un artiste que j'apprécie énormément, qui s'appelle Clément Oudot, mais son nom de scène, c'est Captain. Il a beaucoup d'humour et il fait des jeux de mots parce que l'album de Captain, c'est Flamme. Donc, pour les gens de ma génération, Captain Flamme, ça va vous parler. Il y a beaucoup de jeux de mots dans tout son album. Et j'ai choisi Grève Angélique parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité.
On se retrouve donc juste après l'écoute de Grève Angélique par Captain. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. We'll be right back.
voler sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, des anges réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres, n'oubliez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Les anges tombaient du nid. Comment être par avis d'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé, et j'ai une armée d'anges gardiens. Votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux et prièrent, syndicat, priez pour nous jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
Nous venons d'écouter Grève angélique par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Avani de l'April. Nous allons reprendre le fil de notre discussion avec Magali Garnero alias Bouquinette dans la deuxième édition du format Parcours Libriste de la Libre à vous. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. On parlait de l'April, de ce que tu as fait à l'April, des actions que tu aimes faire à l'April. Et tu nous as parlé d'abord du groupe d'inscription, tu nous as parlé de la modération pour le réseau de microblogging Mastodon, mais je crois que tu t'es né particulièrement aussi à parler d'un autre site qui est géré par l'April, qui est l'Agenda du Libre.
Oui,
qu'est-ce que tu fais pour l'Agenda du Libre?
Alors l'Agenda du Libre, ça existe depuis des années, hein. C'est un projet qui appartenait à Rodolphe Quetteville et qui fait une sorte de calendrier de tous les événements qui sont organisés dans le monde du livre. En 2014, l'April décide de s'emparer de ce projet un peu vieillissant et que plus beaucoup de gens utilisent et donc ben échappe encore lui peut-être un peu sous la pression de sa chérie. Le recode depuis zéro dans un autre langage que PHP parce que il préfère Ruby. Et on relance l'agenda du lib. Alors on ne fait pas que le relancer en mode agenda, on lui aussi adjoint un annuaire pour recenser toutes les organisations libristes, que ce soit des associations, des GUL, alors GUL, groupement d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, des entreprises, mais aussi des tiers-lieux.
Et tous ces gens sont... espace public numérique...
Exactement, médiathèque, Fab Lab, et tout est mis sur le site et mon rôle à moi dans l'agenda du lib, c'est pas de modérer les événements, c'est de mettre à jour les associations, entreprises, Fab Lab, compagnie, le plus régulièrement possible d'ailleurs. Je suis contente parce que pour l'AG, on avait fait du tri, il y en a plusieurs qu'on a été obligé d'enlever parce que ben elles n'exerçaient plus et du coup on en a rajouté plein de nouvelles pour que le chiffre ne baisse pas.
Oui, notre AG, l'AG de la prise qui avait eu lieu fin mars, oui. Effectivement. Et donc, c'est sur l'agenda du libre, en fait, qu'on redirige les personnes, quand on rencontre des personnes qui découvrent le logiciel libre, qui souhaitent en savoir plus, ils viennent parler avec nous sur le stand, et nous, on leur dit, il y a un site qui vous permet de trouver vraiment les organisations locales, près de chez vous. Donc, vous pouvez parler avec des humains, les rencontrer, et peuvent vous aider à installer des logiciels, à les paramétrer, à libérer votre machine si vous voulez changer de système d'exploitation. Donc c'est vraiment un site super utile et bah merci de vous en occuper et de le faire vivre.
Ah bah faut remercier Emmanuel et
merci
Christian
beaucoup,
qui font la modération et du code très régulièrement.
Exactement, donc on profite pour remercier aussi Manu, Dite Echarpe et Christian. Et tu voulais peut-être parler aussi d'un autre groupe qui te branche bien dernièrement.
Alors
dernièrement, depuis alors, toujours, mais
oui, il y a un groupe que j'adore parce que c'est le groupe des trolls. C'est le groupe sensibilisation. C'est
pourquoi là où le groupe de trolls.
Ah oui, c'est là où on se chamaille sur le texte qu'on va mettre dans les flyers, sur quel mot, quelle virgule, où placer tout ça. C'est aussi là où on fait les stickers. D'ailleurs, à l'April, on a un nouveau stagiaire qui est en train de retravailler sur priorité au logiciel libre. Donc voilà, c'est aussi le lieu où on parle de t-shirts. Et je me rappelle encore de toutes les discussions qu'on a eues sur les t-shirts, qui sont tous très très réussis, même ceux que je mettrai plus jamais. Voilà. Et en ce moment, on est très actifs parce qu'on se réunit quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce qu'on essaye de mettre en place un jeu de société qui s'appelle le jeu du gnou, et qu'une sorte de petit jeu initiatique pour permettre à des gens qui ne connaîtraient pas encore le logiciel libre ou qui s'y mettent tout juste de se former, d'avoir les bonnes phrases, les bons arguments.
Et on a déjà une version bêta de ce jeu qu'on a déjà proposé sur plusieurs ateliers, mais on aimerait bien avoir un jour la version officielle. Mais en tout cas, on peut déjà jouer. Et effectivement, d'abord, on essayait de s'organiser plutôt dans un lieu physique. Hein, c'était toujours la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Puis l'épidémie de Covid est arrivée. Il y a un avant et un après Covid, malheureusement. Et ça passe pas tout était mauvais parce que ça nous a poussé à faire des visioconférences, même si on coupait la caméra assez vite pour des raisons de sobriété énergétique, mais ça nous a permis en fait de faire contribuer des personnes qui n'habitaient pas Paris et qui pouvaient pas forcément venir à la Fondation pour le Progrès de l'Homme Paris 11e. Et donc c'est pas plus mal parce que voilà, on a trouvé d'autres personnes qui participent au groupe. Donc c'est pas plus mal.
Et en petite nouvelle, vous pourrez venir tester ce jeu à Paris Passage en Seine le 17 juin, puisque avec Isabella, on fera un atelier jeu du gnou. Je crois que c'est vers l'heure du repas ou un peu avant. Donc, venez le tester.
Je n'ai pas encore regardé l'heure. Il faut que je la note sous le calendrier. Ce qui me fait rebondir, parce que c'est une autre des activités que tu fais à l'April. Tu fais des conférences, tu fais des interventions, tu fais des ateliers. Est-ce que ça te plaît, cette activité-là?
Alors, je déteste ça. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours le tract dès que je dois prendre la parole en public, mais mieux je maîtrise mon sujet et moins je bafouille.
C'est compréhensible, c'est logique. Donc, on disait que tu as commencé en tant que bénévole. très active dès tout de suite. Tu as eu ensuite envie de devenir administratrice pour voir les coulisses de l'April. Tu y es restée parce que tu trouvais bien.
Oui.
Et puis tu es devenue présidente de l'April il y a 4 mois. C'était décembre 2022. On n'a pas une date exacte.
22 novembre 2022, je crois.
Ah, donc c'était fin novembre officiellement. D'accord. Et en fait, on était plusieurs, je me mets dedans, hein, à se demander pourquoi tu n'es pas devenue présidente de l'April plus tôt. Est-ce que tu t'étais posé cette question et pourquoi c'est n'arrivé que maintenant?
Alors moi, je me suis jamais posé la question parce que femme, non informaticienne, non intéressée par les dossiers institutionnels, désolée Étienne, je me sentais pas vraiment la personne la mieux placée pour représenter l'April, et même si Lionel Allorge, ancien président extraordinaire de l'April, me l'a proposé plusieurs fois, j'avais toujours refusé. Et puis au départ de Véronique, qui était quand même assez soudain, on s'est réunis tout le conseil d'administration et les salariés pour savoir ce qu'on allait faire, et c'est Jean-Christophe Becquet, vice-président, qui avait accepté de reprendre la présidence au moins jusqu'à l'AG parce que personne ne voulait prendre ce poste. D'ailleurs, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne veut la responsabilité. Donc, on peut la donner à chacun des administrateurs. Il n'y en a pas un qui roule pour sa bosse. Et la nuit qui suit cette décision-là, puisque c'était en soirée, j'ai pas dormi. Mais alors vraiment pas dormi, quoi, en mode insomnie totale.
Et c'est usuel pour toi de ne pas dormir?
Alors c'est très rare, parce que moi je pose la tête sur l'oreiller, je m'endors comme un bébé. Donc ça m'arrive de me réveiller, mais là j'arrivais même pas à m'endormir et je pensais à plein de choses. Je pesais le pour, je pesais le contre. Je me disais mais non, t'es toujours pas la bonne personne. Puis j'avoue que il y a un président pour moi qui se dégage dans le sein de l'administrateur, qui pourrait être un très bon président, mais qui pouvait pas forcément à ce moment-là. Mais après une nuit à réfléchir, à vraiment, je me suis rappelé ce qui avait été dit pendant la réunion, dont la réflexion de 2 salariés, comme quoi je pourrais être présidente. Ils se reconnaîtront tous les deux, c'est pas difficile, ils sont autour de moi ce soir, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Et le lendemain, j'ai appelé d'abord Fred, puisque Fred c'est le délégué général, puis c'est un ami. Et je lui ai parlé de mon sentiment d'imposture. Je lui ai parlé du fait que on était quand même amis assez proches avec Fred, parce que je rappelle que je suis la marraine de sa fille, hein, qu'on part en vacances ensemble. Donc me mettre en position de patronne d'un de mes meilleurs potes, c'est compliqué. Et puis avec Isabella aussi, hein, c'est un secret pour personne, on s'entend très bien. Donc président, ça voulait dire patronne, et c'est pas du tout un rôle que j'apprécie. Moi, je préfère les décisions transversales. Et ils m'ont tous les deux rassuré. Donc après, j'ai discuté avec d'autres administrateurs qui m'ont dit go. Donc, hop. Le lendemain, j'étais déclarante présidente. Personne s'y a opposé. Et je pense que ça a soulagé plein de gens, parce que moi aussi, j'ai bien dormi le lendemain.
C'était le fait de bien dormir te faisait dire que c'était le bon choix à faire, et tu as reçu plein de félicitations, hein, non seulement de la part des administrateurs, des membres du conseil d'administration de l'équipe salariée, mais aussi de bénévoles, le soutien de l'April et d'autres libristes partout en France.
J'avais peur que ce soit mal accueilli, parce que justement toujours non informaticienne, non politisée ni quoi que ce soit, puis en fait les gens ont été rassurés de connaître la présidente de l'April, de savoir qui c'était, de pouvoir mettre un visage, un pseudo, et ils étaient tous enchantés. Donc j'étais rassurée que ça soit pas un choc, parce que commencer un début de présidence en plein milieu de l'année, loin de l'AG, c'est toujours bizarre.
Et comment tu te sens aujourd'hui, à 4 mois de distance? Est-ce que tu es bien confortable dans ce fauteuil de présidente?
Je regrette pas mon choix, parce que c'est ce qui m'a permis de mettre en place des choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais en même temps, à chaque fois qu'on me dit « c'est la présidente de l'April, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, quel privilège !» Je suis toujours un peu étonnée, parce que moi, je suis juste bouquinette, je suis juste celle qui tenait les stands et ainsi de suite, et je me sens pas plus appréciable que d'autres personnes ou plus célèbre que d'autres personnes. Donc peut-être que mon sentiment d'imposture continue à revenir, mais en tout cas je suis toujours heureuse d'aller vers les autres.
Et puis c'est pas dit que chaque président doit avoir les mêmes compétences, le même profil que les autres. C'est même bien qu'il y ait une variété en fait de profils qui s'alternent à la présidence.
Si on prend tous les présidents avant moi et qu'on les compare, on se rendra compte qu'ils ont fait chacun leur spécialité et que du coup, moi je vais pouvoir amener un peu de convivialité, de relationnel et j'espère plein d'humour dans les prochains communiqués de presse.
Qu'est-ce que sont du coup, parce que non, du fait que tu es devenue présidente, tu t'es imposé encore plus d'actions à mener, encore plus de projets, encore plus d'opérations à mener par rapport à quand tu étais administratrice, bénévole active. Qu'est-ce que tu as mis à l'agenda?
Alors, beaucoup trop de choses, ça c'est clair. Déjà. Quand je suis rentrée en 2012 au CA de l'April, j'avais envie de lancer une opération qui s'appelle Engulez-vous, où en gros, on mettrait à l'honneur tous les gules. Alors, on m'a fait remarquer que Engulez-vous, c'était peut-être un peu tendancieux et que c'était peut-être pas, voilà, la bonne chose à faire. Du coup, moi, présidente, comme diraient certains, j'ai décidé de faire le tour des gules. En référence à Astérix, le tour des Gaules, et d'aller voir tous les gules qui acceptaient de me recevoir ou qui m'invitaient. Donc, j'ai commencé par Beauvais parce que les gens de Beauvais, c'est des gens que j'adore. Je me rappelle encore d'eux au Rencontre-moi de Lucie Libre. C'était extraordinaire le travail qu'ils ont fait.
C'est l'association Oisux. Ils sont super actifs. Ils font vraiment énormément d'événements. C'est fou. C'est une association de bénévoles et ils arrivent à faire vraiment beaucoup, beaucoup d'actions.
Voilà, donc coucou Oisux, coucou Marc et Nathalie. Je suis allée à Rennes parce que j'ai pas mal d'amis qui habitent Rennes et c'est l'occasion de faire une pierre deux coups, de voir les copains et en même temps de rencontrer le gude local. Donc là-bas, c'était Actus. J'ai un très bon souvenir de l'endroit, le papier timbré où j'ai été reçue parce qu'ils faisaient un petit rhum à 3 €. C'était vraiment extraordinaire. Je suis pas rentrée bourrée, mais le petit rhum était vraiment extraordinaire. Et puis après Rennes, je suis allée à Nantes. Enfin, Nantes, c'était il y a même pas 10 jours. Où là, j'ai participé à la permanence de Linux Nantes.
C'est beau, permanente. Tu viens de faire un néologisme hyper poétique, là.
En fait, ils le savent pas encore, mais je vais venir tous les mois chez Linux Nantes. Voilà, donc j'ai pu participer à la permanence et j'ai rencontré plein de gens extrêmement intéressants dont je parlerai dans mon journal, puisque forcément, j'ai lancé un journal sur Linux FR qui s'appelle Mon Tour des Gules et où je parle de toutes les associations que je rencontre et avec les gens avec qui je discute après chaque rencontre.
Et voilà. Par ailleurs, si des gules, des personnes représentantes de gules nous écoutent en ce moment, sachez que Bouki se fera un plaisir de venir vous rencontrer, donc n'hésitez pas à nous contacter, à lui proposer une étape pour son tour des gules. Et puis j'ai l'impression, je me souviens bien, depuis que tu es devenue présidente, tu t'es attaquée à un morceau qui était pas très digeste pour toi, mais tu l'as fait quand même. Tu as mis le nez dans les dossiers institutionnels de l'April. Alors, comment ça va?
Alors ça va parce que j'ai beaucoup de chance parce que dans les dossiers institutionnels, en ce moment, c'est pas trop... Ça va, ça va. J'essaye de m'intéresser au CRA, dont Étienne parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est quelque chose au niveau européen qui veut absolument mettre des responsabilités.
Est-ce qu'on peut mettre des mots sur cet acronyme? Cyber Resilience Act.
Act, exactement. Bien joué. Toi aussi, tu t'intéresses au dossier institutionnel. Voilà.
Alors, touché.
Voilà. Mais j'avoue que j'ai relu pas mal de vieux dossiers pour me mettre à jour. Alors, j'avais vraiment suivi tout l'open bar de la défense quand Microsoft avait, disséminé ses logiciels un peu partout. Donc, j'étais contente quand on s'est sorti de Microsoft, mais c'est entré à l'ULAC et je suis pas sûre que soit beaucoup mieux. Donc oui, je m'intéresse au dossier institutionnel et puis on a un wiki qui est très riche d'informations, on a des salariés qui répondent à toutes mes questions idiotes et quand il y a des communiqués de presse à écrire, j'hésite pas à aller mettre ma petite touche dessus, à poser des questions et puis
pour
des
faire fois, plus fun, je crois aussi.
Ouais, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus fun, mais il faut quand même qu'on reste sérieux parce que c'est l'April. Mais bon, une contrepétrie par-ci par-là, ça fait pas de mal.
Voilà, et trouver l'équilibre, c'est l'enjeu, c'est le défi, trouver le bon équilibre.
Et là, il y a Étienne qui dit « Ah, va falloir que je mette une contrepétrie », et tous les autres qui disent « Ah, va falloir qu'on la trouve la prochaine fois ».
Et une autre action que tu as entreprise depuis que tu es présidente concerne la réanimation d'un groupe ou d'une activité dans l'April qui était pas trop vivante dernièrement. Ouais. Tu veux peut-être en parler.
Il y a un groupe de travail qui s'appelle Diversité, qui au départ était pour mettre en avant toutes les diversités des informaticiens, informaticiennes du logiciel libre. Parce que être différent, pour moi, c'est une richesse. Mais ce groupe-là était un peu mort par manque d'animation. Alors j'avoue, c'est moi qui avais l'animation de ce groupe-là en responsabilité, mais j'étais toute seule et puis j'avais autre chose à faire, j'avoue. Mais là, j'ai décidé de le relancer parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de femmes dans le logiciel libre, mais dans l'informatique en général. Hein. On n'est pas beaucoup de femmes et les questions, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas beaucoup de femmes? Alors, une des réponses faciles, c'est qu'on est entouré d'hommes misogynes. Bon, moi, j'y crois pas trop, parce que moi, les informaticiens que je côtoie sont tous adorables et prévenants, et ainsi de suite. Mais du coup, une manière de relancer ce groupe-là, c'était peut-être aussi de montrer qu'à l'April, on est bienveillant, on est accueillant, on est sécurisant. Et c'est vrai que depuis que je suis présidente, j'ai déjà fait une formation, une conférence pour lutter contre les discriminations. Quelle qu'elle soit, et puis aussi lutter contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste, mais ça c'est vraiment beaucoup plus spécifique. En tout cas, c'est un nouveau pôle du logiciel libre que j'appose plutôt à l'April, bien que je me sente quand même assez soutenue par des salariés et des administratrices.
On a parlé beaucoup de l'April, c'est un peu normal, hein, vous, de tout l'investissement du temps que tu lui consacres. Et pourtant, c'est pas, il n'y a pas que l'April dans ta vie comme association. Tu milites dans au moins trois autres associations qui sont en lien avec le logiciel libre et la culture libre. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots?
Alors oui. Alors la première, c'est Framasoft. Alors là, c'est l'association familiale, amicale, c'est la porte d'entrée du libre, comme je disais tout à l'heure. C'est beaucoup de copains, c'est pas beaucoup de membres, contrairement à l'April, puisque là, il n'y a pas de membres. C'est plus des dons qu'il faut faire régulièrement.
Et qu'est-ce qu'elle fait, Framasoft?
Alors, c'est surtout de l'éducation populaire, mais moi, quand j'y suis rentrée, c'était pour aller tenir des stands. Et oui, encore. Et pour vendre des livres, puisqu'il y avait des Framabook, format papier, que je pouvais vendre dans ma librairie. Voilà. Bon, et puis après, ils ont lancé les chatons. Mais moi, j'y suis rentrée, c'était au tout début de leur campagne dégooglisons Internet, donc ça devait être 2014, quoi. Ça aussi, ça remonte très loin. Et ils ont bien voulu de moi, les inconscients. Dans une autre association auquel je participe, mais là, c'est limite évident, c'est Parinux. Donc Parinux, c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres d'Île-de-France, même s'il y a marqué Parinux, ça fait longtemps qu'on est sorti de Paris pour aller envahir ailleurs. Et donc on fait des install parties. Alors nous on appelle ça les samedis du libre. Au départ, c'était les premiers samedis du libre, mais comme on est des oufs malades, c'est un premier, deuxième, troisième samedi du libre. Enfin, ça avait plein de samedis du libre. On va sûrement changer de nom du site internet. Et puis on fait aussi des soirées de contribution. Alors moi j'aime bien appeler ça les SCL. En gros, tous les jeudis, on se réunit pour changer le monde en mieux. Et puis on a les APL.
Alors, les jeudis, en fait, c'est pas des permanents, c'est pas ouvert.
C'est pas ouvert au public. Voilà. Non, c'est vraiment plus sur travailler sur des projets internes à l'association ou aux associations présentes. Et puis les APL, qui ne sont pas des allocations pour le logement, mais qui sont des apéros du libre qu'on essaye d'organiser tous les 15 du mois où vous pouvez venir nous rencontrer. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Donc on a parlé de Framasoft, notre association donc nationale dont les actions sont complémentaires à celles de l'April. On a parlé de Parinux, pour le coup une association très locale parce que c'est le groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres de Paris. Tu as aussi un rôle dans une autre association qui fait quelque chose de très particulier, qui gère un site de vente en ligne. Pourquoi à faire quoi avec le logiciel libre?
En fait, on s'est rendu compte que les associations payaient une tonnes de frais bancaires pour à chaque fois qu'elle vendait des objets en ligne. Et on se dit, mais pourquoi ne pas mutualiser les faits? Donc, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle En Vente Libre. Alors, elle s'est créée bien avant que moi j'y rentre, hein, puisque je suis pas depuis très longtemps. Mais en gros, on peut aller acheter les goodies de plusieurs associations, mais on peut aussi faire des dons. C'est-à-dire qu'on fait un virement et il y a plusieurs associations qui touchent des sous. Et donc, ça limite vraiment les frais. Et puis, c'est plus simple d'aller sur un site que d'aller sur plusieurs sites. Alors, ce que j'aime bien avec cette association, c'est qu'elle regroupe 15 autres associations.
Il y en a déjà 15. Parce que
oui, il y en a 15 maintenant.
Au départ, il y en avait quelques comptés sur les doigts d'une main.
Quand j'ai commencé, il devait y en avoir 7 ou 8. Et c'est vrai qu'un des objectifs que je m'étais fixé, c'était de faire rentrer plein de gens. Alors, comme elles sont 15, je les ai écrites, hein, j'avoue, parce que j'avais peur d'en oublier. Je voulais pas me faire taper sur les doigts. Bon, alors la première, vous en doutez, c'est l'April. La deuxième, Framasoft. La troisième, c'est l'UnixFR, c'est une plateforme d'actualité en ligne où il y a vraiment plein
participative.
Participative. En fait, vous pouvez écrire des articles, des journaux, des dépêches, tout ce que vous voulez. La modération est super sympa et il y a des gens adorables dedans.
Je crois qu'il y a à nouveau
il y a Benoît Cibot, effectivement. Et puis il y a aussi Floxy, Florent Zara, puis il y a Nils, et puis il y a Nicolas Vérité. Enfin bref, ils sont hyper nombreux et je les aime tous. Il y a aussi l'association, alors Debian, Debian, vous dites comme vous voulez. Donc c'est un système d'exploitation libre. Et donc en d'autres systèmes d'exploitation libre, vous avez aussi Ubuntu FR, Mageia et Borsa Linux. Donc là, c'est 4 systèmes d'exploitation que... l'association qui ont une communauté française assez active. On a aussi la FDN qui vient de rentrer, donc fournisseur d'accès Internet. C'est un des derniers qui est rentré, d'ailleurs, je la remercie. La Contrevoix, c'est un GUL local qui s'appelait 42 parce que le GUL est né dans l'école 42. Et puis finalement, ils sont plus étudiants à l'école, donc ils se sont renommés autrement.
Je suis pas sûre que ce soit un GUL, je crois que c'est une association qui intervient un peu partout en France maintenant.
Tant qu'ils étaient dans l'école, on va dire que c'était un GUL, mais maintenant qu'ils interviennent partout, on va dire que c'est des associations. La Mouette, alors vous la connaissez parce que c'est la fondation qui s'occupe de LibreOffice. J'adore leur logo en forme de mouette. Il y avait des super peluches, alors cherchez pas, il y en a plus, mais c'était mignon. L'association Lila, Libre comme l'art, qui eux font, qui mettent en avant tout ce qui est art sous licence libre, mais qui font aussi beaucoup de développement sur GIMP.
Qui est un outil
retouche photo, mais on peut retoucher plein d'images aussi. Mmh. Donc, on peut faire plein de choses avec GIMP. Il suffit d'utiliser tous les modules et ça devient une usine extraordinaire. Alors, Kaganat, vous les connaîtrez pas parce que c'est plus le jeu libre. Ce que j'aime chez eux, c'est que sur leur site internet, ils ont décidé que le féminin l'emportait sur le masculin. Donc, tout est au féminin, c'est extraordinaire. Alors, multisystème. Ils vendaient des clés USB avec des logiciels dessus. Et on continue à récupérer des dons. Et puis le dernier, c'est Musique Libre, qui, comme son nom l'indique, fait de la musique sous licence libre. Il s'occupe aussi du site docmusic.net. Et c'est grâce à eux qu'on peut se procurer le CD de Captain Flamme en format CD dans un vrai boîtier qu'on peut commander sur En Vente Libre.
Merci pour cette belle point sur toutes les associations qu'on peut aider grâce à inventelibre.org. N'hésitez pas à consulter ce site. Vous avez la référence sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Tu fais tellement de choses avec plein d'associations. Tu es libraire, tu es propriétaire de ta libraire, donc comme tu dis, il y a pas beaucoup de congés, il y a pas beaucoup de temps libre, mais du coup on se demande parfois, mais où tu trouves toute cette énergie?
Alors je pourrais dire que je me drogue, mais c'est pas vrai. En fait, je bois du jus d'orange pressé tous les matins.
Ça suffit? si c'est que ça, alors faisons-le tous et toutes, parce que.
Non, mais je suis partie des gens qui ont besoin d'agir, et si j'agis pas, c'est que je suis en train de bouquiner.
Voilà. Donc, si vous n'entendez pas Bookie, c'est que les dans un livre, dans la lecture. Et à propos de lecture, puisque notre temps arrive à la fin, je suis super contente d'avoir fait cette interview avec toi.
Je pensais pas qu'on arriverait au bout.
Et écoute, pour moi, c'est passé super vite. Et il te reste 2 minutes. Peut-être que c'est l'occasion de la part du libraire de nous donner 2 conseils de lecture, 2 suggestions.
Alors, je vais vous parler de deux livres. Heureusement, tu m'avais mis au courant avant parce que j'ai pu faire mon choix. Le temps des féminismes de Michel Perrot et Eduardo Castillo aux éditions du Stock. C'est un livre qui fait une sorte d'historique du mouvement féminisme vu par une historienne professionnelle de métier. Moi, Michel Perrot, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et elle en parle vraiment de manière accessible à tout le monde. Et puis, le deuxième livre, c'est Rien dans mon enfance, d'Éric Pessan. C'est un petit livre qui m'a été conseillé par un copain, Benjamin de Framasoft, qui est passé à la librairie. Et en fait, c'est une suite anaphorique. Donc, anaphorique. Toutes les phrases commencent par « Rien dans mon enfance ». Et en gros, « Rien dans son enfance » nous a préparé à... Et là, vous choisissez ce qui vous a marqué, ce qui vous marque dans le présent et ce pourquoi vous n'étiez pas prêt. Voilà, donc c'est un peu nostalgique, mais en même temps, il y a plein de clins d'œil à l'actualité, à la génération de l'auteur qui doit être à peu près la même que la mienne, vu qu'on regardait les mêmes dessins animés. Voilà, donc c'est deux petits livres. Donc, « Le temps des féminismes » de Michel Perrot et « Rien dans mon enfance » d'Éric Plessan.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour avoir participé à cet exercice qui est pas facile, je pense, de parler de soi à la radio.
Tout s'est bien passé.
Mais voilà, tu es encore là, tout s'est bien passé, tu souris, donc ça me réconforte. Merci pour ces deux conseils de lecture aussi, de la part du libraire. Je pense que c'est des bons recommandations à prendre, et au plaisir de te voir bientôt, parce que de toute façon on a prévu plein de choses à faire ensemble pour l'April et peut-être au-delà de l'April. Donc merci encore.
Salut.
Donc nous venons de faire un échange avec Magali et je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Nous allons écouter Blue Cats par Alpha Brutal et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Empty shadows still swallows my skin. I think I'm falling. My private bedroom, I shiver all alone. I open my eyes and I sing a strange song. This single world is too small to end. Keep on. I'll create a one of my own. Where the blue cats will be howling when I scream. Like the flowers growing down the street, which speaking. In motion that I can't really explain, cause it's a senseless fear.
Nous venons d'écouter Blue Cats par Alpha Brutal, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Je viens de m'apercevoir, j'en discutais avec Bouquillette, que j'ai choisi deux morceaux au début à la fin, un peu expérimentaux. Peut-être c'est trop, deux. J'aurais pu en mettre que un, mais voilà, c'est effectivement deux morceaux que j'aime beaucoup. Et voilà, comme ça, vous connaissez mes goûts musicaux. Et voilà pour l'explication sur les pauses musicales.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique qui s'appelle La Pituite de Luc et qui porte à nouveau sur ChatGPT, visiblement un sujet qui inspire notre Luc car il avait déjà livré une première chronique sur ce sujet le 28 février 2023. Pour la réécouter, c'est libreavoue.org/169. Donc on va écouter la chronique de Luc et on se retrouve juste après.
Difficile d'échapper à ChatGPT, sujet déjà battu et rebattu au fil des semaines. Il faut pourtant que j'y revienne. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de plus extrême que de le tester pour avoir l'air de savoir de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai plutôt fait appel à un expert. Il a pris un peu de son précieux temps pour me parler. Je n'ai pu l'interroger qu'entre deux portes. Excusez donc la qualité médiocre de l'enregistrement qui suit.
Timaël, tu as utilisé l'outil dont tout le monde parle. Qu'est-ce que c'est ?
Le ChatGPT ?
C'est ça. Et qu'est-ce que tu lui as posé comme question ?
Avant, j'ai une personnalité de Léviathan.
Et t'as été content du résultat ?
Pas du tout. Il s'est totalement planté sur les types parce qu'il a mis type eau et type dragon, mais en fait c'était type eau et vol.
Il connaît rien au Pokémon, c'est ça que tu dis ?
Bah c'est un robot, c'est logique.
Mais il a fait quoi d'autre comme erreur ?
Plan. Par exemple, il a dit qu'il était intelligent, mais pas du tout, qu'il faisait attention à son maître, encore moins, et qu'il était précis, pas du tout, du tout, du tout.
Mais l'éviateur, c'est une grosse brute en fait.
Oui, énorme. Il a un cerveau de pigeon. Alors qu'il est énorme.
Comme tu as des doutes, tu lui as posé la question directe de savoir quel est le type de Léviator et qu'est-ce qu'il t'a répondu ?
Il m'a bien répondu, il a dit qu'il était type eau et vol.
Donc, est-ce que tu peux faire confiance à ChatGPT ?
Pas du tout.
Donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire si tu considérais que c'était une personne ?
J'ai pété ! Ah, ça fait trop du bien.
Voilà, c'était le témoignage de première main d'un expert en Pokémon. Ok, il n'a que 8 ans, mais il est déjà plus pertinent que pas mal de monde tant nombre de conneries se racontent sur le sujet. ChatGPT n'a-t-il pas déjà poussé quelqu'un au suicide, hein ? Une chose est certaine, Alan Turing, bien que déjà mort, s'est retourné dans sa tombe pour tomber en PLS. Je me souviens de l'époque pas si lointaine où on s'émouvait à l'idée qu'un système informatique quelconque puisse passer son fameux test. Même si ChatGPT ne vise pas à réussir ce test, dans la pratique c'est bien ce qui se passe. Ainsi, les recruteurs se foirent massivement puisque 82% d'entre eux ont été incapables de faire la différence entre de vraies lettres de motivation et des lettres générées lors d'un test. Est-ce que les recruteurs de recruteurs vont désormais les tester sur la facilité avec laquelle une IA peut les berner ? J'espère. Nombreux sont ceux qui ont souligné que cette IA est une brillante machine à générer du bullshit, ou foutaise en bon français. Au-delà de la question informatique, cette IA souligne finalement à quel point les foutaises ont une place importante dans notre monde d'humains doué d'une intelligence supérieure. David Graeber avait mis le doigt dessus avec ses fameux bullshit jobs. À coup sûr, nombre de ces boulots pourraient être pris en charge par une IA sans que personne ne fasse la différence. On sait que le monde éducatif est en émoi, et c'est peut-être le signe que la méthode d'évaluation est elle-même inepte. J'ai, comme tout le monde, rencontré des gens qui ont finalisé leurs études sans rien y avoir compris. Maîtriser son sujet n'est qu'un heureux effet de bord du processus. Une stratégie de type système expert peut suffire à valider un diplôme. J'ai vu de mes yeux une titulaire d'un bac S et de 4 années d'études universitaires ne rien comprendre au coefficient de pondération. Et la vie quotidienne n'est pas exempte de cette emprise des foutaises. En 2015 déjà, Narcos, un développeur, l'avait démontré en scriptant nombre de ses interactions quotidiennes. Pas encore actif à 8h45, son script gueule de bois envoyait un message de type « je me sens pas bien » à son patron, avec une excuse tirée dans une liste prédéfinie. Son script « Kumar trop du cul » restaurait automatiquement une base de données dès lors qu'il recevait un mail du dit Kumar avec un certain nombre de mots-clés dedans. Et on ne parle ici que de simples scripts, une IA moderne pourrait tellement plus. Quand on essaie de dresser la liste des cas analogues, on réalise qu'elle est interminable. À scruter les performances de la machine, on en oublie d'examiner les performances du vivant et de se rappeler qu'on peut aussi abaisser l'humain. Déshumaniser les troupes en temps de guerre est une tradition millénaire. L'organisation scientifique du travail a été un vaste projet de mécanisation des individus dont nos sociétés sont pétries depuis plus d'un siècle. Les réseaux sociaux, en hackant le circuit de la récompense, développent des façons de programmer les cerveaux toujours plus pertinentes. Je crois que face à ChatGPT et consorts, la maîtrise de nos données, notre capacité à jouer avec le langage, à créer notre propre culture et à tisser des réseaux de confiance seront des bouées de secours. L'humain va devoir évoluer, la facilité que représentent les foutaises ne sera sans doute bientôt plus une stratégie viable.
C'était la chronique La Pétuite de Luc sur ChatGPT, la deuxième en fait sur ce sujet. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons donc terminer par quelques annonces. Dans les annonces aujourd'hui, une nouvelle soirée de contribution libre, on en parlait tout à l'heure, organisée par l'association Parinux, aura lieu jeudi 4 mai à la Générale, à Paris 14e. Donc attention, ce n'est pas une permanence ou une fête d'installation. Chaque personne vient avec ses projets, justement, ou avec ses envies de contribution pour contribuer à des projets autour du logiciel libre. Cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 5 mai. Mon collègue Frédéric Couchet de l'April sera présent à cet apéro. Depuis 2016, l'Université de Bordeaux propose la licence professionnelle administrateur et développeur de systèmes informatiques à base de logiciels libres et hybrides. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 mai 2023. Cette formation, je le précise, est ouverte à l'alternance. Les rencontres professionnelles du logiciel libre sont un salon professionnel organisé par le PLOSRA, un réseau d'entreprises du logiciel libre établi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le salon s'adresse aux entreprises, collectivités, associations, universités et écoles qui cherchent des solutions à leurs besoins informatiques. Cette année, ce salon aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à Lyon et à cette occasion, l'April tiendra un stand. Et nous cherchons des personnes pour étoffer notre équipe de bénévoles, donc n'hésitez pas à nous faire signe. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel, Magali Garnero alias Bouquinette, Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguen, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 mai à 15h30 et notre sujet principal portera sur le ou la low-tech. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 9 mai et d'ici là, portez-vous bien.